précédemment dans les consultations extraordinaires.
Vous savez, la fac me demande encore la convention de stage.
Karl Gustav von Schoeffel, pour vous servir.
Nous venons voir Madame Mercier. Belladone Mercier.
Mais nous pourrons nous occuper de cette convention également.
Vous voulez dire que vous ne l'avez pas encore fait ?
Je viens juste de recevoir la copie d'un message électronique qui contient une convention de stage au nom d'Adélaïde Chamberlain, dûment signée par sa responsable.
Des cahiers de plumes et la compagnie Raymond Crocotte présente... Les consultations extraordinaires de Belladone Mercier, psychologue des dieux. Saison 1, épisode 4, Honky Tonk Women. La nuit était tombée depuis peu sur Paris et il régnait un silence inhabituel dans les rues. Ce silence ouaté qui caractérise les respirations communes que les êtres humains s'accordent parfois. La foule s'était hâtée de rentrer chez elle pour les préparatifs de la dernière soirée de l'année, laissant déambuler seulement quelques rares personnes pressées de faire de même, ou celles qui n'avaient pas d'autre choix que de rester dehors, dans un froid glacial. Cette impression de vide avait trouvé à s'infiltrer jusque dans un petit appartement du 19e arrondissement situé sous les toits, trois étages au-dessus d'un café dont les serveurs terminaient de ranger les tables avant la fermeture. Prostré sur un canapé qui avait connu des jours meilleurs, Adélaïde Chamberlain sangloutait devant un vieux film des années 90 où Meg Ryan recevait un message électronique, tout en ignorant, quant à elle, les multiples sonneries de son téléphone. On eût à peine reconnu la jeune femme enjouée et pleine de vie dont notre auditoire se souvient certainement, en découvrant ce visage où les larmes laissaient les vestiges d'un maquillage délavé. Détail plus étrange encore, elle ne portait pas son t-shirt des moments tristes, mais bien une élégante robe fourreau qui contrastait doublement avec le réveillon raté et le chagrin assumé. Tout occupée à noyer son cafard dans l'intrigue sirupeuse de la comédie romantique, Adélaïde Chamberlain n'entendit pas les coups répétés frappés avec insistance sur la porte d'entrée, pas plus qu'elle n'avait perçu le carillon de la sonnette, ni les bips des messages, ni les cris qu'il appelait à travers l'huis clos. Elle sursauta cependant quand le fracas du bois qu'on pulvérise hors de ses gonds lui fit quitter l'écran des yeux. Deux grands éclats de rire cascadèrent au même moment à la manière d'un tri incongru et deux femmes surgirent de la brèche comme deux diables hors de la même boîte, secouées par des larmes d'hilarité qui semblaient ne pas vouloir s'interrompre. La première se précipita vers la cuisine avec un rugissement si sonore qu'il en fit trembler les murs. Elle se mit en devoir de fouiller le réfrigérateur en enfouissant sa crinière brune à l'intérieur, si bien que le reste de son corps souple moulé dans une robe de lin très fine fut la seule chose qui en dépassa pendant trois bonnes minutes. N'y trouvant manifestement pas ce qu'elle y cherchait, elle se résolut à retourner tous les placards à la recherche de denrées convenables, pendant que la deuxième, une beauté au teint plus hâlé et aux longs cheveux raides, les yeux cernés d'un maquillage appuyé, gloussait de plus belle en s'agrippant au cou de Claude Minkowski. Le gardien de musée tentait de son côté tant bien que mal de contenir la fougue de la séductrice aux mains bien trop entreprenantes à son goût.
Adélaïde, mais pourquoi tu réponds pas à ton téléphone, bon sang ? Non, s'il vous plaît, je préfère que vous enleviez votre main.
Oh, voyons, mortel, ne sois pas si prude. C'est sans doute que tu n'as pas assez bu, toi aussi. Colère de rat, tu as trouvé de quoi nous désaltérer ?
Rien de vraiment intéressant. C'est aussi vide que le désert ici, et il n'y a pas de viande non plus.
Eh, mais c'est pas la peine de tout arracher. Il ne vous a rien fait, ce tiroir. Et puis, je suis végétarienne. Vous ne trouverez pas de viande chez moi.
C'est bien ce que je disais. C'est inutile de rester ici, maîtresse d'Ocel. Allons plutôt explorer les rues de cette cité. Nous finirons bien par trouver assez de breuvages pour étancher notre soif et quelques carcasses à déchiqueter.
Et ça, qu'en dis-tu ?
L'odeur est fort, ça me plaît.
Eh, hey, mais laissez-en un peu pour moi.
Mais arrêtez, c'est de la vodka. Vous n'allez tout de même pas boire.
Pas sûr.
Mais qui est-ce ?
Ah, c'est donc ton épouse mortelle.
Non, c'est...
La grande Belladone Mercier. Je m'incline devant toi, magicienne des mots.
Non, il y a méprise. La grande Belladone Mercier n'est pas ici. Elle doit être occupée à rédiger un article important pour les cahiers de psychologie clinique ou une autre revue prestigieuse, si elle parvient jamais à l'envoyer à temps pour le faire paraître.
Ah, tu dois être son acolyte. J'aurais dû m'en douter, avec ce joli minois. Mais dis-moi, serait-ce des larmes qui coulent encore sur tes joues?
Mais qui êtes-vous à la fin?
Ah, ma chère enfant, je suis celle dont tu sembles avoir bien besoin ce soir. Je suis la maîtresse du ciel, de la danse et de la joie, mais aussi de l'amour. Mais tu peux m'appeler Hathor. Et ma sœur, qui cherche une autre jarre de ton breuvage dans tous les recoins de ta demeure, est la puissante Sekhmet.
Oh non, encore des divinités. Tu n'as rien trouvé de mieux que de les amener justement ce soir?
J'ai pas vraiment eu le choix, Adélaïde. Mais je voulais te prévenir et tu réponds pas au téléphone. Que se passe-t-il? Hathor a raison, tu pleures?
Je voulais pas que tu me vois dans cet état.
Bien maintenant, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive?
Il n'a vraiment rien de décent à dévorer ici, maîtresse du ciel. Et le peu qu'il y a à boire n'étanche pas ma soif. Il est temps de partir. Maintenant!
Attends un instant, mère de la colère. Nous devons trouver la grande Belladone Bercier, ma jolie. Tu peux nous mener à elle, n'est-ce pas?
Ah, mais vous empestez l'alcool!
Je crois que c'est précisément le problème. Je te raconte pas le calvaire, rien que pour les amener jusqu'ici.
Et tu n'as rien trouvé de mieux, justement, que de débarquer avec deux déesses égyptiennes ivres mortes ce soir, chez moi, alors que le Louvre est à deux pas du cabinet de Belladone.
C'est que nous avions rendez-vous ici, je te rappelle, et je pensais que nous allions les déposer sur le chemin. Tu te souviens que nous avions prévu de passer le réveillon au restaurant, n'est-ce pas?
Oui, oui, bien sûr.
Une soirée d'amour qui s'annonce. Ah ah.
Nous ne devrions pas trop attendre avant de les amener à Belladone.
Je ne crois pas, non, mais vous irez sans moi.
Comment ça?
Oh non! Viens avec nous, belle amie. La grande Belladone aura besoin de toi, j'en suis certaine.
Oui, eh bien moi je ne crois pas. Sinon je n'aurais pas reçu ça dans ma boîte aux lettres ce matin.
Qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'Institut de psychologie, on dirait.
Tu n'as qu'à lire, c'est rapide et concis, qualité devenue rare de nos jours.
Chère mademoiselle, je suis au regret de vous faire part de la décision du conseil pédagogique de prononcer votre radiation. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Lis en entier, tu vas comprendre.
Du master de psychologie clinique, en effet, malgré nos multiples relances, vous n'avez pas pu justifier de l'obligation d'effectuer un stage clinique auprès d'un ou d'une professionnelle dûment accréditée par l'université Paris-Cité. Mais c'est ridicule! Tu es en stage avec Belladone Mercier!
Eh ben non, figure-toi. Il se trouve que le secrétariat universitaire n'a jamais reçu de convention de stage me concernant. Donc, aux yeux de l'administration de la fac, je n'effectue aucun stage. Je n'existe pas, Belladone n'existe pas, mon année entière de master n'existe pas.
Mais c'est pas possible, voyons. Il y a sûrement une erreur, un moyen de tout arranger.
Oui, j'ai cru ça moi aussi, avant de passer la journée à appeler et rappeler la fac. La convention n'existe pas et le règlement de l'institut est formel. Sans validation de stage clinique, mon année est caduque et mon diplôme impossible à obtenir. L'erreur, c'est moi qui l'ai faite en choisissant de demander un stage à la seule psychologue de France qui soit incapable de signer une convention et de l'envoyer dans les délais impartis.
Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes, jeune mortel. Mais je ressens qu'une profonde injustice a été commise. Et je ne le permettrai pas.
Bien dit, ma sœur. Moi non plus.
Je vous remercie, mais il n'y a rien que l'on puisse faire.
Je ne suis pas d'accord. Nous devons voir Belladone Mercier. Tu vas venir avec nous. Et nous nous ordonnerons de corriger tout cela. Et si elle ne fait pas, alors au moins nous aurons une proie vivante à nous mettre sous la dent.
Ce sera peut-être pas la peine d'aller jusque-là, hein?
Et pourquoi pas?
Mais tu plaisantes.
Non, pas la dévorer, bien sûr. Mais pourquoi ne pas y aller, après tout? Je pourrais au moins avoir une explication face à face avec elle et lui asséner ses quatre vérités. Et ensuite, nous aurons notre réveillon, je te le promets.
Oh oui!
Seul, Damator, vous resterez avec Belladone Mercier, si nous parvenons jusque-là.
Comment as-tu fait pour venir?
Nous avons marché. Je ne me voyais pas prendre le métro avec elle. J'ai bien peur que nous devions à nouveau éviter les transports en commun.
Cependant, si traverser presque tout Paris à la marche est déjà un bel exploit lorsqu'il fait nuit et froid, le faire en chaperonnant deux déesses passablement éméchées relève d'une odyssée presque aussi mémorable que celle du héros achéen dont Hathor et Sekhmet n'avaient sans doute jamais entendu parler. Le périple entamé par Adélaïde Chamberlain et Claude Minkowski aux côtés des deux ivrognes sacrés fut jonché de périls comparables. Il y eut un cyclope, une charybde et une scylla, des sirènes et des lotophages. Mais il y eut aussi notre aimable auditoire le découvrira, de surprenantes aventures, de celles aptes à provoquer de profonds changements. Toujours est-il que lorsque les quatre protagonistes de cette histoire mirent le pied sur la placette qui bordait l'immeuble, une abondante averse de neige tombait du ciel en recouvrant déjà le bitume d'un manteau blanc. Les rues étaient désertes. Les sons de la ville s'étaient comme retirés loin au-delà de la nuit. Les formes des voitures, des abribus, des colonnes de publicité s'estompaient derrière un rideau glacé. Ce n'était déjà plus vraiment Paris. Ce n'était pas encore le royaume des dieux. C'était un entre-deux qui émerveillait et désorientait autant les mortels que les êtres divins.
Mais c'est froid! Ça fait un drôle de bruit quand on marche. Un peu comme du sable qui croustillerait sous la dent.
On appelle cela de la neige. C'est vrai que ça doit vous changer de ce que vous connaissez. Et puisque c'est la première fois que vous en voyez, il y a une tradition qui doit être respectée.
Hop! Hey, mais c'est vraiment froid! Pourquoi vous m'avez lancé ça?
Ben allez-y, lancez-moi une aussi. C'est un jeu, ça s'appelle une bataille de boules de neige.
Je ne trouve pas cela très amusant.
Oh! Ouais, moi je trouve au contraire que c'est drôle.
Attends un peu que je t'enfonce une dans les gosiers.
Attrape-moi si tu peux. Ah!
Hey!
Ah oui, une précision. La neige, ça glisse.
Bon, c'est pas tout ça, mais nous devrions nous hâter. Nous avons beaucoup de chemin à faire et peu de temps. Je vous assure que d'ici une heure, vous vous lasserez des flocons de neige, des batailles et du froid. Plus tôt, nous arriverons chez Belladone Mercier et plus tôt, vous pourrez vous réchauffer. Allez, en route!
C'est ainsi que le petit groupe s'enfonça dans la nuit nimbée de la lumière pâle des lampadaires pour suivre le large sentier déjà à moitié effacé de l'avenue Jean Jaurès. Les arbres aux branches tordues se recouvraient eux aussi peu à peu d'une deuxième écorce blanche. Le silence devenait de plus en plus profond, seulement rompu par quelques sirènes de police ou d'ambulance au loin, et la rumeur assourdie des fêtes qui commençaient à se dérouler dans la chaleur des appartements. Au bout d'une quinzaine de minutes, alors que les écarts ébrieux des deux divines touristes menaçaient déjà de rallonger très sensiblement le temps de trajet, un phare apparut dans la nuit. Un phare autant lumineux que sonore. Un bar, un café, comme les habitants l'appelaient. Il s'étalait à l'intersection de deux rues. Des nappes de musique s'en échappaient qui attirèrent irrésistiblement à tort. Une fois devant, elle n'en voulut point bouger.
Nous ne pouvons pas rester là, Thor. Il reste beaucoup de chemin à faire.
Bah, ils ont l'air de beaucoup s'amuser.
Et on se retrouve chez Camille. Oh, pardon, madame.
Ah, ce n'est rien.
La musique est trop sympa. Pardon, tu aurais du feu?
Hein?
Elle, non, mais je dois avoir un briquet quelque part. Voilà.
Merci. Elle a l'air un peu stone, ta copine. Tu es sûre qu'elle va bien?
Oui, elle est un peu déprimée, c'est tout.
Ah, vous devriez aller à l'intérieur, alors. Il fait meilleur et puis l'ambiance est bonne. Ça lui changera les idées.
C'est gentil, mais nous avons rendez-vous ailleurs. Tu viens?
Mais qu'est-ce qui t'a pris?
Je ne sais pas. C'était si joyeux à l'intérieur. Ils avaient tous l'air d'être heureux, de s'amuser. Il y avait une musique entraînante. J'avais envie de danser, de boire.
Si vous voulez mon avis, c'était pas vraiment le moment.
C'est toujours le moment, mon joli. Et si tu le comprenais, tu serais moins coincé.
Oui, bon, ça va. Allez, on a encore beaucoup de route avant d'arriver chez Belladone.
Le groupe parvint en vue du pont qui surplombe les voies de la gare de l'Est, entre les émerveillements d'Hathor devant les vitrines et les énervements de Sekhmet. La neige avait redoublé d'intensité. Le froid se faisait plus mordant et s'insinuait plus profondément dans les esprits, les rendant paradoxalement plus vifs. C'est en débouchant sur la place du 6 septembre que nos arpenteurs glacés croisèrent la route de cinq hurluberlus aux verbes hauts et aux gesticulations expressives. Ils semblaient danser sur le silence comme si l'atmosphère était emplie d'une musique festive.
Hé, hey, regardez la bombasse. Dis, tu danses avec moi?
Bien entendu, jeune homme, mais seulement si tu m'offres une gorgée de ce breuvage.
Ouais, bien sûr. Mi cerveza es tu cerveza.
Hathor, nous sommes pressés et vous avez déjà beaucoup bu.
Oui, sans compter que ceux-là ont sans doute fait de même vu leur état.
Puissante sœur, regarde, il y a du vin.
Il est délicieux.
Hey, doucement, c'est ma seule bouteille. Bon, ok, ok, tu peux la prendre, me regarde pas comme ça.
Il faut intervenir, ça va partir en vrille cette affaire, je le sens.
Ça va, mademoiselle? Claude, tu peux m'aider? Elle tient pas debout, là.
Je sais pas. Vous êtes qui? On se connaît?
Non, je ne pense pas. Vous vous sentez bien?
Ah! Parfaitement bien! Mieux que jamais! J'ai tout oublié. C'est pas super, ça? Tout! Je suis avec mes potes, et y'a que ça qui compte. C'est le présent qui compte. Qu'on soit ensemble, et là, on dirait que le monde, bah, il a disparu autour de nous. Et ça, c'est profond, tu vois.
Oui, ben, c'est pas toujours si simple que ça, croyez-moi. Même si parfois, on voudrait bien l'oublier, le monde, et a toujours tendance à se rappeler à notre bon souvenir.
Bah, tu réfléchis trop, ma jolie. Viens plutôt danser avec moi.
Eh, mais qu'est-ce que vous faites avec cette statue?
Bah, ce n'est pas parce qu'ils sont en pierre qu'ils ne peuvent pas danser, eux aussi.
Mais là...
Oui, je sais pas qui était cette mère et son enfant, mais j'espère qu'ils ne nous en voudront pas trop. Mais que fait Sekhmet?
Ah non, hein, si le rideau est fermé, c'est qu'on doit pas rentrer.
J'ai faim, mortel!
Waouh, balèze la meuf! Elle a pété le rideau rien qu'avec ses mains. Dis, je peux essayer moi aussi?
Non, je vous déconseille, vous n'êtes pas équipé pour.
Oh non, c'est un carnage, elle est en train de dévorer toute la viande.
Bon, ça suffit maintenant. À tort, venez raisonner votre sœur, on n'a pas que ça à faire. Si vous voulez qu'on reste pour vous aider, il va falloir y mettre du vôtre un peu. Ou bien, vous trouverez Belladone Mercier toute seule, et je vous souhaite bien du courage. Je ne sais même pas pourquoi vous avez tant besoin de son aide. Mais si j'en crois votre conduite, ça ne doit pas être si important que ça. Et replacez cette statue là où elle était.
Je suis navrée, jeune Adélaïde. C'est que, vois-tu, c'est justement ce genre de comportement que nous voudrions cesser de montrer au monde avec l'aide de Belladone Mercier. Ce n'est pas vraiment de notre faute, tu sais.
Oui, eh ben, faites en sorte que cette responsabilité en reste au minimum. Et allez me chercher Sekhmet avant qu'elle ne dévalise tout l'étal.
Allez, puissante sœur, il est temps de t'arrêter. Tu sais ce qui se passe quand tu ne te contrôles pas.
Hein. Eh, rende-moi cette carcasse!
Non, il est temps de t'arrêter, je te dis. Tu ne changeras donc jamais.
Ah bon? Je ne changerai jamais? Et toi donc? Dis-moi... Tu vas cesser de t'acoquiner avec tout ce qui possède deux jambes et deux bras, peut-être?
Je ne vois pas ce que mon devoir sacré envers la création de Ra vient faire là-dedans. Moi, au moins, je respecte ce que le soleil engendre et je ne cherche pas constamment à tout détruire.
Alors là, tu ne manques pas d'aplomb. Qui donc m'a envoyé punir les mortels de leur manque de respect envers Ra? Ose-moi dire que ce n'est pas toi. Ose-moi dire que ce n'est pas l'alcool dont tu abuses en permanence qui a parlé par ta bouche cette fois encore.
Oui, eh bien je ne suis pas la seule à un peu trop aimer l'alcool, n'est-ce pas? Qui donc s'est baigné dans une rivière de vin jusqu'à tomber ivre morte?
Mais je croyais que c'était du sang!
Justement, tu n'aimes que ça. Le sang, la viande, le carnage. Tu ne sais rien faire d'autre. Et la seule façon de t'arrêter, bah, a été de t'abreuver de ce qui pouvait le plus ressembler à du sang jusqu'à ce que tu en tombes.
Mais au moins, je ne couche pas avec n'importe qui.
Mais vous allez arrêter, oui? Nous n'avons pas le temps de vous laisser vous disputer. Il nous reste du chemin à faire. Ça fait au moins 10 fois que je vous le répète sur tous les tons.
Mais puisque c'est comme ça, moi, je vais en trouver du temps, tiens. J'ai vu comment certains d'entre vous se déplacent, Adélaïde Chamberlain. Et cela fera bien notre affaire.
Ah, mais vous ne pouvez pas... Ah si.
Elle a arraché la portière, c'est ça?
Plus ou moins. Mais vous savez conduire?
Bon, cela n'a pas d'importance. Entrez dans cette machine. Et toi, puissante Sekhmet, tu as intérêt à venir avec nous aussi. Ou je jure par la plume de Maat que je te laisse te morfondre ici jusqu'à la fin des temps.
Tu me payeras tout cela, dame du sel.
J'en suis certaine. Toi, mortel, tu te mets derrière. Et toi, ma jolie, devant avec moi. C'est quoi ça?
L'autoradio, ça produit de la musique.
Parfait, en route!
Parmi toutes les choses étranges qu'Adélaïde Chamberlain avait vues et vécues depuis qu'elle avait croisé le chemin de Belladone Mercier et de ses patients extraordinaires, la plus décalée fut sans doute de se retrouver coincée sur le siège passager d'une vieille berline de conception française, à laquelle il manquait une portière du côté conducteur, pilotée de manière aléatoire par une déesse égyptienne ivre, vêtue d'une robe de lin transparente et parée de nombreux bijoux d'or pur, avec, à l'arrière, une deuxième divinité dont l'haleine sentait autant l'alcool que le sang frais, et un gardien de musée qui tentait de s'en tenir le plus loin possible. Si l'on ajoute que ledit véhicule fonçait comme une trombe à travers les rues de Paris en direction de la chaussée d'Antin, en diffusant à pleine puissance les notes de The Ballad of Lucy Jordan par Marianne Faithfull, on peut se représenter l'étonnement que ce curieux objet roulant non identifié aurait pu susciter dans la ville lumière s'il y avait eu des passants assez courageux pour braver le froid et la neige. Les passagers n'étaient pas loin d'être eux-mêmes frigorifiés. Hormis les notes saccadées de la bande-son de Thelma et Louise, un silence tendu régnait dans l'habitacle, plus ou moins abrité du vent, chacune et chacun souhaitant éviter de provoquer un nouvel éclat qui aurait pu déconcentrer la conductrice divine dont les gestes étaient déjà dangereusement brusques. Les pneus glissaient plus qu'ils ne roulaient, la calandre encaissait tant bien que mal les coups sur les trottoirs et les poubelles renversées, le pare-choc menaçait de tomber en raclant la neige après avoir percuté un panneau publicitaire, deux arbres et une rangée de vélos en libre service. Les minutes s'écoulèrent dans l'angoisse, comme la trajectoire de la voiture sinuait de façon dangereuse. Après de multiples détours qui prirent une bonne demi-heure, Hathor dut avouer qu'elle ne savait pas où elle allait. Elle arrêta le pauvre véhicule martyrisé au beau milieu d'un carrefour, ne sachant quelle rue emprunter.
Ce n'est pas très amusant finalement. Prends mon relais, jeune Adélaïde.
Je crois que ça vaut mieux.
Je pense la même chose que cette mortelle dame du ciel. Tu as failli nous renverser au moins une douzaine de fois.
Oui, mais nous sommes encore vivants et franchement, c'était pas gagné au début.
Claude, mets-toi à la place du passager, tu vas me guider. Je ne vois rien avec cette tempête de neige.
Prends par là, je crois qu'on peut rejoindre la Madeleine. Non, laisse la musique, ça m'évitera de penser aux deux passagères qui sont à l'arrière. Là.
Qu'est-ce qu'elles font?
On dirait qu'elles boudent.
Au moins, elles se tiennent tranquilles.
J'ai faim!
J'ai soif!
Ça n'aura pas duré longtemps, le calme. Il n'y a rien d'ouvert à cette heure-ci, vous allez devoir attendre.
Et moi, j'ai dit que... Oh, arrête-toi vite!
Oh non, arrête-toi, Adélaïde, elle va vomir. Oh, allez, descendez!
Ouais.
Ah, voilà ce qui arrive quand on boit trop et qu'on monte dans un manège à sensations. Parce que je vois, même les dieux peuvent se prendre une cuite monumentale. Ça va mieux?
Un peu.
Et attends, qu'est-ce que vous faites?
Regarde, mon bel ami.
De l'autre côté de la place, à travers les vitres éclairées d'une brasserie typiquement parisienne, on pouvait suivre les mouvements fluides de deux corps qui dansaient l'un avec l'autre. On ne pouvait, de là où se trouvait notre petite troupe, distinguer les notes qui les emportaient dans leur flot. Pourtant, on devinait à leurs gestes qu'il s'agissait de quelques mélodies langoureuses.
Ces deux-là viennent de se rencontrer.
Comment le savez-vous?
À leur façon de bouger, de se tenir, de se regarder. Ils se sont rencontrés ici. Leurs regards se sont croisés et ils se sont plu. Alors ils ont partagé un verre de bière. Ils se sont parlé. La bière a effacé leurs craintes, leur a insufflé courage pour accepter l'attirance qui grandissait. La musique s'est alliée à la bière et leurs corps ont trouvé à se toucher. Les doigts, d'abord. Regarde comme elle lui sourit et comme il lui murmure des mots juste au creux de l'oreille. Tout bas, assez près pour qu'elle l'entende clairement malgré le bruit alentour. Et assez proche pour que son souffle produise un frisson agréable dans sa nuque à elle. Regarde comme leurs yeux se cherchent et comme leur peau se frôle. Ils vont sortir main dans la main.
Ouh, il fait froid. Je peux ?
Oui, approche.
Par ce simple baiser, il n'échange pas seulement une vague promesse d'instant partagé. C'est un autre espace qui vient de se créer. Même s'ils ne se reverront pas après cette nuit, ils ont allumé une flamme, ici, dans cette ville balayée par le vent et la neige. Une flamme qui ne s'éteindra pas avant que le serpent Apophète ne dévore le monde.
Pour une fois, dame du ciel, je dois admettre que voir le monde à ta façon me plaît beaucoup. Et on dirait que je ne suis pas la seule.
Ah, c'est bien, mais jeunes gens, vous nous avez promis de nous conduire jusqu'à Belladone Mercier. Alors, votre nuit à vous devra attendre encore un peu, si vous le voulez bien.
Désolée.
Je reprends ma place tout de suite.
La voiture redémarra, et pour la première fois depuis le début de cette aventure, le silence qui régna à l'intérieur n'était plus hostile. Ils flottaient dans l'air frais comme des flocons de connivence. Une averse de confiance surprenante. Pendant quelques minutes, on eût pu croire que le petit groupe pourrait atteindre son but sans autre anicroche. Mais, comme il advint pour le fameux marin achéen, lorsque l'on croit le terme du voyage enfin à portée de main, un coup du sort vient souvent tout remettre en cause, et c'est ainsi que des vents contraires firent s'éloigner le rivage tant attendu. Ce fut en arrivant près du Louvre que tout bascula. Alors que les lumières illuminant les façades du palais royal et de la pointe de la pyramide de verre se détachaient dans le ciel balayé par la neige, l'attention de Sekhmet fut attirée par des mouvements dans la rue.
Arrête-toi, jeune de l'Aïde! Il y a des gens qui se battent là-bas!
Vous arrivez à voir quelque chose? Je distingue même pas les trottoirs.
Je sais ce que j'ai dit, arrête-toi!
Je vous écoute, Sekhmet, mais faites attention, attendez au moins que j'ai freiné!
Elle ne t'écoutera pas, ma jolie!
Elle a raison. Gare-toi et nous allons la rejoindre. Je crois savoir où elle va, j'ai vu un attroupement, moi aussi.
Aussitôt que le contact eut été coupé, les trois passagers restants se ruèrent à l'extérieur à la poursuite de celle qui s'en était jetée en pleine course. Au jugé, ils prirent la direction indiquée par Claude Minkowski en glissant parfois sur les trottoirs déjà gelés. Des éclats de voix les guidèrent bien vite vers le cœur de l'action. Ils furent les témoins effrayés d'une scène de chaos sanglant dans laquelle s'était déjà engouffrée la déesse Lyonne, Griffe et Crocs d'Or. Une demi-douzaine d'individus de tous âges avaient roué de coups une silhouette recroquevillée sur elle-même, le corps secoué de soubresauts convulsifs. L'acharnement était allé jusqu'à brutaliser la victime même lorsque son corps avait cessé de bouger, lorsque les cris de terreur s'étaient tus, lorsque le sang avait imbibé la neige au point de la changer en une flaque écarlate poisseuse. Tout ce beau monde se relayait pour asséner des coups de pied, de poing, de tessons de bouteilles, tout en riant ou en se lançant des défis. Leur diction montrait clairement l'influence puissante que l'excès d'alcool et d'autres substances peut avoir sur la bêtise humaine. Les longs rugissements de colère de Sekhmet avaient figé l'assemblée comme une scène de crime, avant que ses morsures et sa propre rage ne provoquent un nouveau chaos dont, cette fois-ci, les agresseurs de naguère furent les victimes sacrificielles. Elle déchira les chairs aussi bien que les vêtements chauds et fit couler à elle seule plus de sang encore quand Claude Minkowski, Adélaïde Chamberlain et Hathor parvinrent à rejoindre le lieu de cette tempête de violence pure.
Ils sont perdus. Une fois déchaînés, la colère de la puissante ne peut s'apaiser que par des fleuves de sang et de larmes.
Il faut bien faire quelque chose, elle est en train de les massacrer.
Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et ne t'avise pas de t'interposer car elle ne te reconnaîtrait pas. Tu serais déchiqueté avec autant de harnes. Ce garçon est déjà aux portes d'Amanti. Mais je le reconnais. C'est celui qui m'a bousculé par mégarde en début de soirée. Il semblait si plein de vie alors.
Les policiers vont appeler les secours. Venez.
Non, il est vraiment au bord de la mort et il faut faire beaucoup plus vite.
D'accord. Alors aidez-moi à le soulever. Il faut le mettre dans la voiture.
Bon sang, il est lourd.
Non, à tort, derrière. Sinon, comment voulez-vous que je conduise?
Ben, je n'en sais rien. Peut-être que tu as des talents cachés.
Et pour Sekhmet, elle va se faire arrêter.
C'est peine perdue. Mieux vaut la laisser là. Je plains plutôt ceux qui tenteront de la détourner de son courroux. D'ailleurs, vois par toi-même, elle a déjà commencé avec eux.
Ils ont sorti leurs armes. Cette soirée tourne au cauchemar.
Ça, c'est ce qu'on va voir. Démarre, je m'occupe de Sekhmet. Après tout, un lion, c'est rien de plus qu'un gros chat, non?
Si je décide aujourd'hui de raconter ce qui se passa ensuite, au mépris de la promesse solennelle de le taire à jamais qui me fut arrachée par la déesse Lyonne, c'est qu'il me semble important pour comprendre toute cette histoire de mesurer à quel point Adélaïde Chamberlain était parvenue à cet instant précis de la soirée et de sa vie. En outre, nous savons tous, vous et moi, que le fait d'entendre un récit lie irrémédiablement celui qui écoute et celui qui parle, celle qui reçoit et celui qui donne. Je ne doute pas que ma promesse devienne ainsi votre serment et que vous n'irez jamais répéter ce que je suis sur le point de vous révéler. Car, croyez-moi, si la puissante Sekhmet découvre tout cela un jour, j'ai encore quelques autres croustillantes anecdotes à échanger contre ma vie, tandis que pour vous, Toujours est-il que la résolution de l'étudiante en psychologie fut telle, en ces moments troubles, qu'elle n'hésita pas à marcher droit vers la divinité enragée, à tendre la main et à refermer sa poigne sur la peau de la nuque hérissée. Je n'ai d'autre façon de décrire la réaction de la puissante déesse guerrière, et vraiment, j'insiste sur ce point avec tout le respect que je lui dois, que de la comparer à celle d'un adorable chaton que sa mère vient de prendre dans sa gueule pour interrompre l'une de ses nombreuses facéties. Ses yeux prirent une rotondité confondante, ses gestes se suspendirent, son visage se détendit. Il n'est pas impossible qu'un petit miaulement se soit même échappé, par mégarde sans doute, de sa gorge, toute velléité agressive aussi soudainement envolée que la neige fonte au soleil. Et il était temps, car elle avait commencé à mâchouiller le poignet d'un gardien de la paix, qui n'avait rien pu faire d'autre que hurler pour que ses compères vinssent à son secours, ce qu'ils étaient manifestement sur le point de faire. Adélaïde Chamberlain ne perdit pas de temps et ramena sur le champ jusqu'au véhicule ensanglanté une Sekhmet aussi docile qu'une peluche.
Allez, fonce! Ils ne vont pas nous laisser d'avance.
Mais vers où?
Je crois qu'il a besoin de soins très vite.
L'Hôtel Dieu, c'est le plus proche. Ils ont service d'urgence.
Vas-y!
Et la voiture à laquelle manquait une portière fila à contresens le long de la rue de Rivoli, rapidement poursuivie par les sirènes de police. Claude Minkowski roulait à tombereau ouvert sans se soucier le moins du monde des terre-pleins qui séparaient théoriquement les voies, uniquement concentré sur la vitesse et le contrôle des roues qui patinaient à chaque oscillation du volant. Mais à l'arrière, l'agitation n'était pas moins dangereuse.
Ah non, je t'ai dit que je peux y arriver. Je ne suis pas qu'une guerrière, je suis aussi celle qui guérit.
Tu as trop bu, ma sœur. Regarde tes mains comme elles tremblent.
Elles ne trembleront pas les moments venus.
À tort, à raison. Vous n'êtes pas en état.
Je voudrais bien voir ça.
Non, tu vas empirer son état.
Laisse-moi faire, je t'ai dit.
Alors que le véhicule arrivait en vue du pont neuf, le cri de colère de Sekhmet déconcentra Claude Minkowski une fraction de seconde. Les roues heurtèrent le trottoir, le pare-chocs s'enfonça dans les barrières qui bordaient l'escalier de la sortie de métro, la voiture dérapa vers la gauche en un arc de cercle presque parfait pour s'encastrer contre le feu tricolore séparant la voie en deux, et s'y immobiliser en faisant exploser les vitres encore intactes. Les sirènes de police retentissaient toujours de plus en plus proches.
Tout le monde va bien ?
Oui.
Ça va bien.
Non, il respire trop difficilement.
Nous n'avons plus le choix. Il faut le transporter nous-mêmes. Il faut traverser le pont. À tort, ce n'est pas le moment de se déshabiller, voyons.
Ne vous préoccupez pas de cela, je vais nous donner du temps.
Je ne veux même pas savoir comment. Adélaïde, aide-moi à le porter.
Il restait un très long chemin, à pied, jusqu'au porche des urgences de l'Hôtel Dieu de Paris, dans le froid, chaque pas dérapant plus que le précédent. Mais Hathor avait, on ne sut jamais comment, réussi son pari. Les forces de l'ordre ne poursuivaient plus le petit groupe qui progressait le plus rapidement possible le long du quai de l'horloge. Pourtant, parvenu au niveau du tribunal, Sekhmet les força à s'arrêter.
Il est mourant, je dois essayer.
D'accord.
Mais t'es folle, les urgences sont tout prêts.
Si elle peut le faire, il faut le tenter maintenant. Et si elle n'y parvient pas, au moins, nous aurons essayé.
D'accord, allez-y.
Les mains encore rougies de la déesse Lyonne se posèrent sur la poitrine du malheureux avec une douceur étonnante. Elle tremblait irrépressiblement. Sekhmet se concentra. Elle tremblait toujours. Sekhmet ferma les yeux. Elle tremblait encore. Sekhmet fronça les sourcils, mobilisa toute sa force. Elles tremblèrent plus.
À tort, à raison. Je ne suis plus bonne à rien avec tous ces poisons dans mes veines. Je ne puis plus rien pour lui. Nous devons le confier au vôtre. Je suis désolée.
Vous aurez fait tout ce que vous pouviez.
Non, mais c'est délicat de ta part de tenter de me le faire croire.
Allez, on n'est plus qu'à 300 mètres.
Il leur fallut seulement quelques minutes pour couvrir la distance, confier le blessé aux bons soins de l'infirmière d'orientation et s'éclipser afin d'éviter les questions gênantes. Instinctivement, Adélaïde mena le petit groupe vers le parvis de Notre-Dame, à l'opposé des policiers qui devaient les chercher. Alors qu'ils traversaient le pont vers la rive gauche de la Seine, Hathor les rejoignit enfin, à nouveau vêtue, mais ne révéla rien de ce qui s'était passé pour elle. Le silence fut leur règle tacite durant tout le reste du trajet, qui prit une bonne demi-heure, au pas de course, car ils n'étaient pas certains que leur poursuivant ait abandonné totalement leur traque. Pourtant, alors même que leurs pieds peinaient à garder leur stabilité et que leurs poumons brûlaient presque sous l'effort et l'air glacial, les trois femmes et l'homme qui les suivait restèrent groupés. Quand l'une d'entre eux dérapait sur le bitume gelé, une main se tendait spontanément pour la remettre sur le bon chemin. Quand un autre s'essoufflait, une pause se décidait, le temps pour lui de reprendre des forces. Quand une troisième manquait de courage, deux autres l'encadraient pour lui rendre la volonté de continuer. Lorsqu'enfin, ils s'arrêtèrent devant la plaque dorée qui indiquait le cabinet de Belladone Mercier, leur regard était à la fois reconnaissant, doux et décidé.
Eh bien, je m'attendais à plus impressionnant.
Navré de vous décevoir, je ne suis que moi-même.
Et c'est déjà bien suffisant.
Je vais peut-être vous laisser, moi.
Non, tu vas rester. Tout cela te concerne aussi maintenant.
Elle a raison. Cela nous concerne tous les quatre après ce que nous venons de traverser.
Je suis sûre que vous allez tout m'expliquer. Mais ce sera plus facile si vous voulez bien entrer. Adélaïde, vous préférez rester debout ? Comme vous voudrez. Alors si j'ai bien compris, vous venez du Louvre.
Laisse, puissante sœur, je vais expliquer. Nous venons des deux royaumes, car nous avons besoin de toi, Belladone Mercier. Je suis Hathor, la maîtresse du ciel. Et voici ma sœur, la puissante Sekhmet, patronne des guerriers et des guérisseurs. Nous avons toutes les deux besoin.
Je n'ai plus besoin d'elle, vache céleste. Je crois que je suis guérie de ma soif de sang et du vin.
Maintenant que tu le dis, je crois que j'en suis guérie également. La seule pensée d'une gorgée de bière me retourne l'estomac. C'est prodigieux.
Ou très inquiétant, je ne sais.
Et qu'est-ce qui vous a permis de vous libérer de ces addictions ?
La vie.
La responsabilité.
Mais je crois, cependant, que vous avez toujours besoin de Madame Mercier. Vous ne voulez pas simplement vous débarrasser de vos mauvaises habitudes, mais aussi comprendre ce qui avait pu les réveiller dernièrement.
Comprendre le pourquoi n'est pas vraiment ma spécialité, mais nous pouvons essayer. Avez-vous souvenir du moment où tout cela a commencé à vous gêner ?
C'est alors que le soleil couchant ne finissait pas.
Oui. En même temps, dans le royaume d'Occident, le soleil est éternellement à son crépuscule. Alors ça ne nous avance pas vraiment.
C'est vrai. Mais c'est quand même le souvenir que j'en ai. Nous montions la garde devant les portes d'Amanti.
Comme nous le faisons la plupart du temps. Nous sommes les gardiennes d'Ossir.
Osiris ?
Oui. Ossir est le souverain du royaume d'Occident. C'est là qu'ils vont tous les biens heureux. Et nous sommes les gardiennes de l'entrée. Je me souviens que ces jours-là, une femme un peu étrangement vêtue s'est présentée devant nous. Elle n'avait pas encore passé le jugement, mais son cas errait dans le désert qui s'étend entre la vie et la mort. Alors bien entendu, je lui interdis le passage. Elle devait d'abord réussir l'épreuve de l'apaiser de l'âme, comme tous les mortels.
Cela me revient, oui. Elle avait un peu la même façon de s'habiller que vous, d'ailleurs. Elle avait l'air effrayée et un peu effrayante aussi. Mais elle nous a proposé de partager avec elle un breuvage qu'elle avait amené.
Ah oui, c'est ça! Une eau claire, limpide, mais avec un goût de feu.
C'est probablement un alcool fort. Et c'est à ce moment-là que vous avez ressenti cette envie de boire à nouveau de la bière et du vin, n'est-ce pas ?
Oui.
Et de quoi vous souvenez-vous ensuite ?
Eh bien...
De pas grand-chose. Seulement que plus nous buvions, et plus nous nous sentions à la fois grandes et petites. À la fois dévorées par l'envie de boire encore, et par la honte. J'avais l'impression de devenir plus forte et plus sage, mais je percevais que c'était tout le contraire.
La seule idée sensée qui me soit venue, ça a été de venir te trouver, Belladone Mercier. Tot nous a tant parlé de toi. Je dois dire que je suis très déçue de ton comportement.
En quoi vous ai-je tant déplu ?
Ce n'est pas moi de le dire, mais à ton acolyte.
Adélaïde, voulez-vous m'expliquer ?
Je suis venue pour cela, madame. Mais d'abord, je vais m'appliquer à terminer ce que j'ai commencé avec Hathor et Sekhmet, c'est-à-dire la séance que vous auriez pu dérouler avec elle si vous aviez été présente. Je crois que vous avez été écartées toutes les deux pour que quelqu'un puisse entrer dans le royaume d'Osiris. Quelqu'un qui n'était pas censé le faire, car il avait de mauvaises intentions. Je pense qu'il ou elle voulait dérober quelque chose au dieu Osiris, ou bien lui parler pour le manipuler à son tour. Je suspecte que cette personne soit la même qui s'est déjà attaquée à Thoth, Horus et Isis. À vous de me dire ce qu'une personne mal intentionnée pourrait vouloir du souverain des morts.
Je ne vois qu'une seule chose qui vaille la peine de se donner tant de mal.
Link, La force des vies qui maintient l'existence d'Ossir.
Elle maintient tout le royaume d'Occident en vie.
Et si quelqu'un la possédait, il deviendrait immortel, c'est ça?
Ce n'est pas aussi simple que cela, jeune Adélaïde.
L'Ankh appartient à Ossir. Pour la posséder, il faut en déposséder Ossir, symboliquement autant que physiquement.
On dirait que nous avons l'identité de notre prochain patient.
Non, on dirait que vous avez l'identité de votre prochain patient, Belladone. Pour ma part, je ne vous suivrai pas.
Que se passe-t-il ?
Il se passe que je ne suis plus votre stagiaire, madame. Je ne l'ai jamais été, en fait.
Comment cela ? N'avez-vous pas travaillé avec moi ? Nous avons toutes les deux aidé plusieurs patients, certains ordinaires et d'autres plus extraordinaires. Vous avez même tant développé votre sens clinique que vous avez grandement contribué aux consultations de ces patients si particuliers. Vous savez bien que je n'aurais pas réussi sans votre participation active.
Sans doute, mais apparemment cela n'était pas suffisant pour que vous signiez à temps ma convention de stage. Et à cause de cela, madame, à cause de vous, je suis désormais renvoyée de l'Institut de psychologie.
Mais j'ai posté votre convention de stage il y a une semaine tout juste.
Eh bien, il semblerait qu'elle ne soit jamais arrivée.
Mais c'est impossible, j'ai l'accusé de réception. Attendez. Et si cela aussi, c'était une manipulation de notre adversaire? Il est assez brillant pour cela, je pense.
Mais qu'est-ce que ça change?
Eh bien, cela change tout. Cela veut dire que vous n'êtes pas vraiment renvoyé, puisque j'ai bien posté la convention. Cela veut dire aussi que s'il prend la peine de vous écarter du jeu de cette manière, c'est parce qu'il sait que vous en êtes une pièce importante. C'est un joueur d'échecs, rappelez-vous. Il considère que les gens sont des pièces sur un plateau de jeu. Et je crois qu'il vous voit comme une pièce maîtresse. Il a compris votre talent et votre implication. Je ne sais pas encore comment, mais il vous connaît, soyez-en sûre et certaine.
Pourtant, même si vous avez raison, vous n'avez posté la convention que depuis une semaine, alors que vous auriez dû le faire il y a plus d'un mois. Quels que soient les talents que vous me trouvez, vos actes démontrent qu'ils sont insuffisants à vos yeux. J'ai la ferme intention de terminer mes études et de devenir psychologue. Je sais que j'aime ce métier, et comme l'aventure que je viens de vivre ce soir me l'a prouvé, je pense en avoir les capacités. Cependant, je le ferai sans vous. Je vous remercie très sincèrement de tout ce que vous m'avez appris, Belladone. Mais il est temps pour moi de vous quitter.
Mais elle peut pas faire ça. Elle le peut?
Oui, elle le peut parfaitement.
Mais c'est idiot, elle va rater la fin de cette histoire alors qu'elle est là depuis le début. Elle peut pas vous laisser toute seule. Elle doit revenir. Vous devez la retenir. Je vais la chercher.
Non, n'en faites rien. Elle a pris sa décision, nous devons la respecter. En tous les cas, c'est ce que moi je vais faire. Je lui dois bien ça, je crois. Vous devriez plutôt la rejoindre et vivre ce que vous avez à vivre avec elle.
Et comment comptez-vous poursuivre cette histoire alors?
Eh bien, le plus simplement du monde. Je crois que nous avons deux guides prêts à nous montrer le chemin de la demeure d'Osiris. Et il est sans doute temps de faire une consultation à domicile. Vous ne croyez pas?
Et tandis que Claude Minkowski courait après Adélaïde Chamberlain pour avoir une chance d'arriver à l'heure au dîner de réveillon qu'il avait réservé, l'homme aux yeux verrons était plongé dans l'étude attentive de la liste des œuvres exposées au Musée d'Histoire de l'Art de Vienne, cherchant parmi elles celle qui serait bientôt sa porte d'entrée. Au moment même où le gardien embrassa l'étudiante sous le froid glacial des flocons, l'homme remit ses lunettes colorées et se pencha sur la photographie d'un portique couvert de hiéroglyphes. Avec un grognement de contentement, il prit son smartphone et y rechercha la page internet du musée, y vérifia les horaires d'ouverture. S'il avait bien calculé, le rendez-vous aurait lieu une semaine plus tard. Cela lui laissait le temps de déchiffrer le texte qui s'étalait sur les piliers encore intact par endroits. La dernière partie de son plan allait bientôt s'enclencher. Germain Huc, le narrateur, Corinne Jacquet, Belladone Mercier, Monique Mazarguil, Adélaïde Chamberlain, David Ourcault, Carl-Gustav von Schoeffel, Lucas Bertrand, Claude Minkowski, Emmanuel Bost, Martine Trillion. Et avec la participation exceptionnelle de Anne Villa dans le rôle de Hathor et de Elena Amery dans le rôle de Sekhmet. Et les voix de Josie Barsango, Stéphane Mathieu, Aliénor Rajad, Sandrine Rappenecker, Pierre Rigal. Écrit par Germain Huc. Musique par L'Auguste Paternel. Correction et conseil clinique par Sandrine Rappenecker et Emmanuel Ducongé. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les autres consultations extraordinaires de Belladone Mercier sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur décaille-deplume.fr. Si vous avez apprécié cette écoute, vous pouvez en prolonger le plaisir en découvrant un peu plus l'univers qui entoure cette histoire ainsi que les coulisses de sa production sur le site décaille-deplume.fr ou sur Patreon pour en soutenir la création. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas risquer de manquer la prochaine consultation et à partager les aventures de Belladone Mercier et Adélaïde Chamberlain avec vos amis. Rendez-vous bientôt pour le prochain épisode de cette première saison.